Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mardi 13 octobre, 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Voilà, nous allons commencer ce journal. Bienvenue à vous tous avec un témoignage exceptionnel, celui que l'on appelle un nuiteux de la police nationale. De quoi s'agit-il, Augustin Lefebvre ? Bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les nuiteux, ce sont les policiers qui travaillent la nuit. Ces policiers sont reçus en fin de journée par leur ministre avec leurs représentants syndicaux. Jeudi, c'est le président Emmanuel Macron qui les rencontrera. Les policiers attendent des mesures fortes après des derniers jours marqués par la violence contre les forces de l'ordre en banlieue parisienne, l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne ce week-end, mercredi dernier, l'agression de deux agents civils à Herblay. Les syndicats demandent du matériel à Gérald Darmanin, mais aussi un meilleur suivi médical, mais plus de moyens. Deux priorités, le paiement des heures supplémentaires et une revalorisation des primes pour les policiers qui travaillent la nuit, ces fameux nuiteux. Notre journaliste Eric Cuoche a pu interroger l'un d'eux. La nuit, il y a moins de budget et plus de dangers.
Christophe, 25 ans de brigade de nuit, a sillonné les cités de la banlieue lyonnaise. Pour ce vétéran, dans ces quartiers gangrénés par les trafics, le coucher de soleil sonne le réveil de la délinquance.
On est quand même bien plus sous nos gardes que la journée. Les gens qui traînent la nuit ne sont pas forcément des gens bien. C'est bien plus dangereux, effectivement, la nuit.
Car les effectifs sont bien plus modestes le soir. Une à deux patrouilles, deux fois moins qu'en journée. Plus facile donc pour les caïds de passer à l'action. Résultat, pas une semaine sans confrontation, pas un mois sans guet-apens.
On fait venir les pompiers pour un feu, et puis une fois que les pompiers arrivent, ils sont caillassés, vous arrivez 5 minutes après pour leur donner un coup de main, et vous êtes également victime de jets de cocktails Molotov, de pavés, de feux d'artifice. On continue malheureusement à être des cibles pour les délinquants.
Selon Christophe, cette violence est exacerbée par les réseaux sociaux, outils de buzz. C'est à celui qui se confrontera le plus à la police, un accélérateur aussi de l'effet de meute. Les interventions policières se font souvent en sous-nombre.
Vous intervenez sur un petit différent avec 2-3 personnes, et puis dès que le tour monte un petit peu, vous avez 15-20 personnes qui sortent des fourrés. On a cette mentalité banlieue qui fait que même si les gens savent pas ce qui se passe, ils ont tendance toujours à prendre fait et cause pour la personne contrôlée et pas pour les forces de l'ordre.
Une prise de risque qui ne paye que peu, 100 euros de prime de nuit pour un mois plein. Les syndicats en réclament au moins le double.
Éric Cuoche, spécialiste police-justice de Radio Classique. Avant la rencontre avec les syndicats, Gérald Darmanin dévoilera à la mi-journée les chiffres mensuels de la délinquance et de l'activité policière. Il participera également au conseil de défense prévu dans les prochaines heures.
Nous sommes vraiment dans un moment assez particulier de l'histoire de notre pays, car à la suite de ce conseil de défense, le président Macron parlera demain soir à la télévision, alors que la situation sanitaire ne cesse de s'aggraver.
On a dépassé hier les 1500 malades en réanimation. On revient au niveau du 21 mars dernier. Le Premier ministre Jean Castex parlait hier de deuxième vague forte. Et alors qu'il va falloir s'habituer à vivre avec le coronavirus, on connaît son fonctionnement un peu mieux chaque jour. L'Agence scientifique nationale australienne a publié ce lundi une étude dont vous avez peut-être entendu parler. D'après ses résultats, le coronavirus pourrait survivre 28 jours sur les surfaces lisses, en particulier à basse température. Alors c'est effrayant, c'est bien plus que ce que les précédentes études ont démontré. Mais attention, il faut quand même mettre ces données en perspective, Laura Teouchanoff.
Ces expériences australiennes ont été menées en milieu sombre, à des températures différentes. À 20 degrés, le virus résiste extrêmement bien, près d'un mois, contre 24 heures à 40 degrés. Mais les tests ne reflètent pas complètement la réalité, prévient Éric Delaporte, professeur en maladies infectieuses.
C'est des dents noires pour éviter qu'il y ait des UV, et on sait que les UV inactivent le virus. La température de 20 degrés, dans la vraie vie, c'est toujours pas stable. Donc ce sont des données avant tout théoriques, qui renforcent l'idée de sa résistance, mais on est quand même loin de la vraie vie, pour savoir si oui ou non ça joue dans la transmission entre les personnes.
Autre nuance, les quantités de virus retrouvés ne sont pas forcément suffisantes pour contaminer quelqu'un, comme l'explique l'infectiologue Robert Cohen.
Pour pouvoir infecter un individu, cette quantité de virus doit être suffisante et infectante. C'est bien la voie respiratoire, les grosses gouttelettes, les aérosols qui jouent un rôle dans la dynamique de l'épidémie et pas les surfaces. Persistance du virus, ça ne veut pas dire infectivité.
Cette étude permet en revanche de souligner l'importance de se laver les mains régulièrement, juste après avoir touché un bouton d'ascenseur ou des billets de banque, par exemple.
Alors, à Taouchanoff.
On en apprend plus également sur les conséquences de la crise économique.
On savait que les Français avaient épargné pendant le confinement 85 milliards d'euros supplémentaires, chiffre du gouvernement. Des milliards très inégalement répartis, d'après une étude du Conseil d'analyse économique, un centre de réflexion rattaché à Matignon, dévoilé hier. Plus des deux tiers de cette épargne ont été accumulés par les 20% des Français les plus riches. En revanche, les 20% les moins riches ont vu le peu d'épargne qu'ils possédaient se réduire. D'où la nécessité d'un plan pauvreté ambitieux, estime Étienne Fize, l'un des économistes qui a réalisé l'étude, alors que le Premier ministre va présenter samedi des mesures pour les plus vulnérables.
Non seulement les ménages les plus modestes ont moins épargné, mais leur endettement a même eu tendance à croître légèrement. Et il est possible que pour pallier une chute de revenus, ils aient dû faire appel à des crédits à consommation ou d'autres types de crédits. Donc effectivement, ça les fragilise. C'est pour ça que l'étude dit qu'il faut vraiment faire attention et surveiller, essayer d'aider ces ménages les plus modestes. C'est faut vraiment cibler bien et efficacement ces ménages-là. Plus le ménage est en difficulté, plus il aura tendance à consommer l'aide qui lui sera donnée.
Propos recueillis par Émilie Vallès. Et puis, on termine
avec une bonne nouvelle pour les gastronomes. Ah, j'adore ça, c'est une bonne année. En tout cas, une année record pour la coquille Saint-Jacques. Mais enfin,
oui,
une bonne nouvelle.
Les gisements de coquilles en baie de Saint-Brieuc, en baie de Seine, ont battu un record historique. En baie de Seine, leur nombre est deux fois supérieur à la moyenne de la décennie qui s'est écoulée. C'est l'Ifremer qui a mené cette évaluation. Quantité et qualité sont là cette année grâce à la mise en place d'une pêche durable. Alain Coudray, président du comité départemental des pêches de Côte d'Armor, se réjouit, mais il s'interroge toutefois sur les débouchés pour toutes ces coquilles.
Toutes ces coquilles sont là parce qu'il y a une bonne gestion. Nous, il y a 3 ans, on a mis des anneaux plus grands de façon à pouvoir pêcher des coquilles qui font vraiment la taille, de façon à ce que les petites restent sur le fond. On a diminué les pêches, la pêcherie, et on a eu la peine que la température de l'eau, elle était bonne. On a eu une très bonne reproduction. Puis voilà, en espérant que le marché suive. Aujourd'hui, bon, bah, ça part. Demain, bah, on verra. On ne sait pas. Tout peut très bien se passer comme très mal. Si les restaurants sont fermés, on va aller chercher des marchés ailleurs. Mais les marchés ailleurs, c'est plus compliqué puisque c'est pareil. Ils sont dans le même état que nous par rapport à cette maladie.
Voilà, le président du comité des pêches des Côtes d'Armor, Alain Coudray.
Merci, Augustin. Il est 7h36 sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, nous aurons un journal imprévisible consacré à Bernard Tapie. Nous allons revenir sur la situation en Chine avec Emmanuel Faux, mais je voudrais vous offrir, non pas en avant-première, parce qu'on l'a déjà vu, évidemment, sur les réseaux sociaux, dans les grandes chaînes de télévision américaines, notamment, voici la BO du futur James Bond, ce qui va sortir quand ce sera possible, probablement donc en avril 21, alors que le film était prévu donc en avril 2020, puis en novembre. Et c'est Billie Eilish, la nouvelle superstar de la musique américaine, qui a enregistré « No Time to Die ». Voilà évidemment donc Billie Eilish avec son frère Phineas qui est compositeur, le bidouilleur de tous les sons de cette jeune fille qui a 20 ans et qui est vraiment démontre un talent tous les jours de plus en plus extraordinaire. Et 7h38, nous avons rendez-vous avec les spécialistes Emmanuel Faux et bien évidemment...